Bienvenue dans ce nouveau numéro de Code du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et de développement durable axé sur la deuxième journée du forum sur les changements climatiques dans la province du Kwilu. Je suis Tati Mapoukou, Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise ce numéro et Mimi Kindou s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce magazine.
Développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
La population vivant dans la province du Kwilu fait face à plusieurs problèmes environnementaux. Les forêts sont en train de se décimer rapidement en raison de la forte demande des produits issus de la cueillette dans ces forêts en lambeaux. L'accès à l'eau potable constitue également un véritable casse-tête pour la population du Kwilu. Comment faire face à ces problèmes environnementaux qui prévalent dans la province du Kwilu? Nous en parlons dans ce numéro des Codes du Développement avec quelques spécialistes qui ont pris part à la deuxième journée des travaux du forum sur le climat dans le Kwilu organisé récemment dans la ville d'Ekikwit. D'après Théotine Ubolekosi, spécialiste en développement durable, les forêts de la province du Kwilu se trouvent dans un état de dégradation très avancé.
D'aucuns ne peuvent douter, les forêts dans la province du Kwilu sont en train de se dégrader en grande vitesse. Je l'ai dit dans mon exposé, quand vous regardez, il ne suffit pas de faire des études spécialisées pour connaître que les forêts sont dans un état avancé de dégradation. Ce que nous appelons la dégradation apparente, c'est-à-dire à l'œil nu, on peut facilement voir qu'il y avait des forêts. À l'œil nu, on peut facilement voir que ici les forêts ont disparu, n'existent plus. On voit par-ci, par-là des lambeaux forestiers, on voit par-ci, par-là des bois sèches, secs qui sont restés parce que maintenant ce sont les signes qui montrent à suffisance que les forêts sont dans une situation critique. Et même que je pourrais dire dans une situation agonisante, comme aiment le dire certains experts. Aujourd'hui, cette situation ne peut pas nous laisser indifférente. Cette situation doit préoccuper chacun, chacune, tous les fils, toutes les filles de la province du Kwilu, mais aussi une situation générale.
Quels sont les facteurs, M. Théophile, quels sont les facteurs à la base de ces déboisements incontrôlés?
Oui, les facteurs sont multiples. Les facteurs sont multiples dans la mesure où vous savez qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, il y a cette grande croissance démographique. Il y a eu des discussions ici. Lorsqu'il y a croissance démographique, ces gens qui hier, les superficies restent les mêmes. Hier, quand dans un village, les gens étaient à 10 000 habitants, ils avaient 10 hectares pour exploiter les forêts, pour gérer les forêts. Aujourd'hui, ils ne sont plus à 10 000. Ils sont devenus 25, 30, 40, 50 000 dans un village.
La demande augmente en termes de ressources.
La demande augmente. Et ils continuent à exploiter les mêmes superficies, les mêmes ressources, sans diversité d'activité pour générer des revenus. C'est tout à fait normal qu'il y ait la pression devient de plus en plus forte sur la ressource forestière. Et vous allez constater que, comme le dit le principe environnemental, lorsque la pression est forte, lorsque le taux de l'extraction de la ressource est supérieur au taux de la régénérescence, la ressource disparaît. Ça, il ne faut pas faire les grandes mathématiques pour découvrir. Lorsque je veux extraire le bois, et que je ne laisse pas une période suffisante pour que ce bois-là, pour que cette forêt-là puisse régénérer, à une certaine période, cette ressource va disparaître.
La dégradation rapide des forêts à Kikwit et ses environs est due d'une part à l'expansion démographique. La population locale exerce une forte demande des ressources forestières pour des raisons de survie, ajoute Théotine Oubolekosi. Nous rappelons qu'il est expert en développement durable.
Le deuxième facteur, c'est la pauvreté. Bien qu'on pense que les pays riches sont à la base de la destruction de l'environnement, mais il y a aussi la pauvreté. Par exemple, ici, nous sommes au 21e siècle, et on a posé les problèmes. Partout, quand les gens aujourd'hui utilisent les énergies renouvelables, les gens utilisent les énergies solaires, mais dans le cuil, qu'est-ce que nous utilisons? Nous utilisons le bois,
le bois de chauffe,
la braise, et nous sommes obligés d'aller vers la forêt pour couper ce bois, pour couper cette forêt. Alors que si on
en même temps satisfaire à la demande de la mégapole Kinshasa, alors, 12 millions d'habitants.
12 millions d'habitants. Et pas seulement Kinshasa, peut-être aussi ailleurs. Vous voyez, non? Kinshasa qui n'a pas suffisamment d'énergie doit utiliser la même braise, les mêmes bois qui provient du Kwilu. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore une autre pression qui se fait sentir à cause de cette pauvreté. Parce que vous n'allez pas demander à celui qui a un revenu maigre d'aller acheter des réchauds, d'aller acheter un groupe, d'aller acheter du carburant. Il va vous dire non.
Déjà, l'accès à l'énergie est difficile.
C'est difficile. Il va aller extraire le bois. Et donc la pression devient de plus en plus grande. Celui-là aussi, même au niveau de la construction. Dans nos villages, qu'est-ce qu'on utilise comme bois de matériel de construction? C'est le bois. C'est la liane. C'est le bambou. Tout ça, on va extraire dans la forêt. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas de choix. Lorsque on va utiliser, si on entre dans la biodiversité, c'est-à-dire c'est là où on va extraire les rats, c'est là où on va extraire les gibiers, c'est là où on va extraire les oiseaux, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens alimentaires. Alors c'est dans la forêt qu'ils vont extraire. Voilà, la pauvreté devient de plus en plus un deuxième facteur. Le troisième facteur que je peux énumérer, même c'est l'ignorance, pourquoi pas. L'ignorance. Pourquoi je parle de l'ignorance? Parce que nous avons une mentalité, la forêt que nos ancêtres nous ont laissée, cette forêt ne disparaîtra jamais. Zambeza Nangonano. La forêt est encore là. Nous avons de grandes étendues. Depuis des années, nous avons toujours exploité cette forêt. Est-ce que c'est là déjà?
La problématique d'accès à l'eau potable pour la population de Kikwit a aussi fait l'objet des réflexions au forum sur les changements climatiques dans les Kwilu. Selon le chef des travaux, Moudiji Bolivar, toutes les activités humaines sont réalisées avec de l'eau. Cependant, l'accès à cette ressource vitale est difficile dans plusieurs ménages de la province du Kwilu. La population qui vit en milieu rural se contente souvent de l'eau des sources non aménagées, avec des conséquences sur la santé humaine, ajoute le géographe Moudiji Bolivar.
L'eau, c'est la vie. Et toutes les activités que nous rendons dans notre société recourent à l'eau. Mais cette eau-là doit être de meilleure qualité. C'est pourquoi nous sommes venus en tant qu'intervenants pour sensibiliser l'Assemblée qui a pris part à ce forum à ce qu'elle puisse contribuer dans les changements de mentalité, à vulgariser les informations que nous leur avons apportées de telle sorte que la province aille de l'avant.
Vous avez fait dresser un constat sombre, au fait, l'accès à l'eau potable ici à Kikwit est plus ou moins accessible, mais au plus nantu. Et quand vous allez dans l'arrière-province, dans les milieux reculés, la population recourt souvent à l'eau des sources, parfois non aménagée. Quels sont les efforts qu'il faut conjuguer, au fait, pour faciliter l'accès à l'eau potable ici dans la ville de Kikwit et dans les périphéries?
L'effort, c'est de demander d'abord au pouvoir public, parce que c'est à lui que revient la responsabilité de bien gérer les communautés. Le pouvoir public doit prendre en charge ses responsabilités en accordant à la population de l'eau potable. Cette eau-là qui doit être bien gérée, bien contrôlée, et de telle sorte que les organes pathogènes puissent être détruits. et à la population de milliers de paysans, notamment dans les milieux ruraux, nous leur demandons, au fait, par rapport aux moyens dont ils disposent, de tenir compte de la potabilité de l'eau chaque fois qu'elle se trouve en présence de cette eau-là, qu'elle essaye de la traiter, de la filtrer, de la bouillir, afin qu'elle devienne potable.
Monsieur le chef des travaux nous dit en même temps aussi un paradoxe. D'une part, il y a cette denrée-là de l'eau potable dont la quantité est en train de baisser, la démographie en train de flamber dans les grandes agglomérations, en même temps aussi en milieu rural, parce que la démographie elle est galopante presque partout. Est-ce qu'il y a des solutions pratiques pour l'instant pour éviter les maladies liées, les maladies d'origine hydrique, faciliter l'accès à l'eau potable à la majeure partie des ménages? Parce que vous l'aviez si bien dit, l'eau c'est la vie.
Oui, l'eau c'est la vie. La population est galopante, ça nous le savons, mais l'eau reste un atout majeur, compte tenu du fait que c'est une denrée naturelle. Donc l'eau, la population doit essayer de bien la gérer afin qu'elle puisse contribuer à une meilleure santé communautaire.
Pour l'instant, nous ne pouvons pas parler de la gestion durable des ressources en eau dans la province du Kwilu, d'après Maître Asser Dzovu, spécialiste en droit de l'environnement. Toutes les lois à caractère national et les édits provinciaux qui réglementent les secteurs de l'eau souffrent d'application dans cette partie du pays, selon ces spécialistes.
Déjà, du point de vue de la gestion, c'est déplorable. Durable, n'en parlons même pas. Nous ne sommes pas encore au niveau de la gestion durable. Les ressources en eau de la province, comme d'ailleurs toutes les ressources en eau de la RDC, sont abandonnées. Elles ne sont pas suffisamment gérées.
Comment ça alors qu'il y a des réglementations, il y a la loi relative à l'eau, il y a la Constitution également qui, dans certaines dispositions, qui prévoit des mécanismes de gestion rationnelle de cette ressource?
Merci, la loi existe, mais sa mise en œuvre pose encore des problèmes. Les mesures d'application, donc les instruments de gestion ne sont pas encore là. Jusqu'ici, il y a un petit balbutiement de la gestion de la mise en œuvre des instruments de l'aspect service public de l'eau pour l'accès à l'eau potable. Il y a quelques actions qui sont organisées au niveau de la province, notamment pour la stratégie provinciale, et même au niveau du gouvernement central, il y a eu quelques initiatives pour la mise en œuvre de l'accès à l'eau potable. Mais du côté de la gestion des ressources en eau comme telle, en fédérant toutes les activités, tous les usages et même la protection de l'environnement, de ce côté-là, rien n'est encore fait. Et donc, nous attendons que les instruments puissent être élaborés.
Et au niveau de la communauté, quelle est la perception que s'est fait la population au fait de cette denrée? On dit que l'eau, c'est la vie. Est-ce que l'eau, elle est disponible dans tout le ménage? Je vous dis que c'est déplorable, l'accès à l'eau potable, la situation, le tableau est sombre. Mais quelle est la perception de la communauté sur cette ressource?
Merci beaucoup. La perception de la population, bon, il faut voir selon quel aspect. La population croit que, évidemment, et c'est ça que l'on véhicule, nous avons des ressources en eau en abondance et que ces ressources sont invulnérables, intaillissables et autres. Alors que nous sommes à l'ère du réchauffement climatique, nous devons justement tout faire pour que ces ressources soient protégées. Ça, c'est un aspect. De l'autre côté, du point de vue de l'accès à la ressource par rapport à la population, il faut dire que cet accès n'est pas rassuré. Les statistiques donnent vraiment un pourcentage très faible pour les gens qui ont accès à l'eau potable. Et donc, on doit faire un effort pour que tous les Congolais aient accès à l'eau potable. Et par rapport à ça, il y a justement des responsables qui existent, que la loi a préconisé, qui doivent se mettre à l'œuvre, notamment la province, qui doit faire un effort pour matérialiser cet accès à l'eau potable en compagnie des ETD, je voulais dire les entités administratives
des entités territoriales
décentralisées, voilà, qui doivent aussi mettre la main dans la pâte et endosser leurs responsabilités quant à ce.
Maintenant, j'aimerais avoir une idée, maître. Vous êtes spécialiste en droit de l'environnement. Quelle est votre perception sur la gestion durable de l'eau pour les cas de la province du Kwilu?
Je suis optimiste. Oui, ça, c'est, il faut le dire. Parce qu'il y a un peu de l'émulation, les gens en parlent, et à gauche, à droite, parce que ça commence toujours par la parole. Mais il faudra que ça soit plus endossé par la population et aussi par nos gestionnaires pour que finalement ça soit concrétisé. Tant qu'il n'y a pas encore la prise de conscience sur la vulnérabilité de cette ressource, sur le danger qui nous guette, du point de vue national, donc interne, et même du point de vue extérieur, parce que les ressources en eau, finalement, de notre République sont également partagées avec d'autres États.
Elle fait aussi l'objet de convoitises par d'autres États, parce qu'il y a rareté sous d'autres cieux.
Naturellement, les ressources partagées sont la pomme de discorde. La pomme de discorde est avec les autres États qui sont en situation de pénurie. Et ils nous envient, et nous qui sommes enviés, nous ne prenons pas conscience de cette ressource que nous devons valoriser et qui peut même booster notre économie. Parce que du point de vue économique, les enjeux sont également très grands. Voilà, donc c'est la prise de conscience et la matérialisation de cette prise de conscience qui doit être soulignée tant du côté de la communauté, de la population, que du côté de gestionnaires.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Vous êtes en train de suivre Écho du Développement, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables, qui s'intéresse aujourd'hui à la deuxième partie du forum sur le climat dans les Kwilu. Donnons cette fois-ci la parole à Monsieur Jean Moupépé, un habitant de la ville de Kikwit. Selon ces Kikwitois, c'est le non-respect des normes urbanistiques qui est à la base de la prolifération des têtes d'érosion dans cette partie du pays. Il fait également un constat relatif à l'éloignement des ressources issues de la forêt à Kikwit et ses environs. Ceux qui ont l'agriculture comme activité principale sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour exercer leurs activités champêtres.
La ville est bâtie sur un plateau. La population n'a plus respecté les limites fixées par les Belges au-delà desquelles on ne pouvait pas construire. Parce que là, il y avait des versants, différents versants. Nous sommes sur un plateau, il y a un versant vers Kanzombi, un versant vers Kikutroi, au-delà desquels on ne pouvait pas construire. Les gens ont construit. Et ils ont même cassé les murs en pierre que les Belges ont laissés. Alors, puisque les canalisations qui devaient évacuer les eaux n'ont pas respecté, n'ont pas suivi ce que nous avons fait comme lotissement après, toutes ces eaux-là ruisselle partout en divagation et ravine la ville. D'ailleurs, si tu circules, malheureusement, tu es venu par véhicule. Si tu venais par avion, c'est comme si tu survolais l'aéroport de Kananga ou de Mbujimayi. Tu vois toutes les têtes d'érosion avec toutes ces crevasses et tu dis ça, c'est un corps tailladé en 1000 morceaux. Donc, si ça continue dans 10 ans, si il n'y a aucun effort pour arrêter ces érosions, la ville sera obligée de disparaître. D'ailleurs, je suis avec Blaise. Si demain vous avez le temps, allez voir là où les Chinois ont essayé de combattre la plus grave érosion qui risque de couper la ville par ici en deux. Les Chinois ont fait un bel ouvrage. Mais une forte pluie a tout emporté. Ils ont pleuré.
Par le passé, c'était comment et aujourd'hui?
Par le passé,
un changement.
Bon, moi, je ne suis arrivé ici qu'en 1974. Il y avait encore quelques vestiges de forêt ou de ce qu'il y avait comme végétation qui pouvait présenter qui pouvait représenter ce que les forêts étaient. On pouvait encore avoir du gibier plus près de Kikwit ici. Mais on a déboisé, on a fait des champs, on a construit, on a loti. Les forêts se sont éloignées. Donc, pour le moment, tout autour de Kikwit, vous n'avez que la petite brousse. On ne peut même pas dire la savane, la petite brousse. C'est dangereux. Et maintenant, les gens sont obligés d'aller très loin pour aller faire des champs. Ma mère, à l'époque, faisait ses champs à 3 km de Kikwit. Puis ça a commencé à s'éloigner jusqu'à 10 km de Kikwit.
Les indicateurs du changement climatique sont réels dans la province du Kwilu, d'après l'ingénieur Idriss Moufouka, coordonnateur du forum sur le climat dans le Kwilu. Il faut en principe œuvrer pour la stabilité des écosystèmes dans cette partie du pays, ajoutent ces spécialistes en énergie renouvelable.
La plus grande préoccupation pour nous, c'est la stabilité de l'écosystème dans le Kwilu. Et lorsqu'on parle de l'écosystème, donc on tient compte de tous ces éléments. Il y a la gestion des eaux, la gestion, excusez-moi, des forêts, la gestion agricole. Il y a également l'accès à l'énergie propre. Et donc toutes ces questions ont été débattues.
À l'œil nu, la population observe réellement que le climat a changé.
Ben, tout à fait, quand nous avons dit que les indicateurs sont réels, c'était pas une science-fiction. L'objectif pour nous était également de conscientiser cette population, pour dire que voilà, c'est maintenant que nous devons agir pour réduire la pression sur la forêt, mais également utiliser des moyens alternatifs pour pouvoir se comporter positivement par rapport à ces changements climatiques. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'annulation, mais on parle de la réduction. Il faut inculquer aux populations du Kwilu, et plus particulièrement de la ville de Kikwit, une certaine éducation environnementale, l'éveil des consciences sur la culture du reboisement, mais également l'utilisation des énergies propres. Et c'est vraiment une satisfaction totale pour nous de voir que la population a adhéré. Les élites qui étaient dans la salle, mais également ceux qui étaient au niveau des stands, ont compris que nous devons nous serrer les coudes pour remonter la pente par rapport à cette question.
Il faut impérativement proposer des solutions alternatives devant aider les communautés locales à réduire la fréquence du déboisement dans les Kwilu. Par manque du courant électrique, certaines boulangeries locales recourent par exemple au bois de chauffe pour la fabrication des pains. L'utilisation des foyers améliorés par les ménages et dans les pâtisseries va naturellement baisser la pression exercé sur les forêts en lambeaux de la province du Kwilu, pense le chef des travaux Sylvain Daniel Kandé, expert en énergie renouvelable.
Avec l'utilisation de bois de chauffe et de charbon de bois, le déboisement est devenu parfait et permanent pour nos forêts. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pour préserver nos forêts, parce que les forêts ont une grande importance. Et ces forêts constituent un héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Ils ont vécu comme nous, ils nous ont fait étudier, ils ont mangé, ils avaient des souffrances parfois plus que nous, mais ils nous ont laissé quand même ces forêts. Nous devons faire un effort pour aussi les laisser aux autres. C'est comme ça que nous nous sommes dit.
Et la province de Kwilu, disons-le, n'est pas à l'abri de cette pratique de déboisement.
C'est une province qui est exposée peut-être à un grand pourcentage plus que d'autres provinces. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la transition vers le foyer amélioré serait une alternative et une solution. Je parle de foyer amélioré pourquoi ? La province de Kwilu, les gens vivent avec moins de 1 dollar par jour. Mais avec le foyer amélioré, qui sera peut-être construit avec de l'argile, la bouse de la vache et la paille, c'est quelque chose, c'est de la matière première que tout le monde peut avoir sans dépenser des frais. Mais pour ceux qui ont des moyens, il y a par exemple la société Côte Gaz qui vend des réchauds à gaz, ça sera une façon de préserver nos forêts.
Et vous avez également, parce que nous avons vu, il y a des entreprises qui sont dans la promotion des produits qui proposent des services des énergies renouvelables qui ont été exposées au cours de ce tout premier forum. Est-ce que ça vaut la peine de recourir à ces matériels?
Ça vaut vraiment la peine parce que, par exemple, avec Côte Gaz, ces réchauds à gaz-là ne pourra jamais permettre à quelqu'un d'utiliser de la braise dans sa maison. On est sûr qu'un arbre qui pouvait être coupé pour que ces ménages-là utilisent de la braise sera préservé. Par exemple, avec Kit for Africa, c'est-à-dire West Africa, les gens pouvaient utiliser peut-être de l'huile de palme pour polluer la nature, mais avec ces kits-là, ça peut aller. Avec Dove Solaire, qui a des lampes de toutes sortes, de frigos et toutes sortes d'équipements photovoltaïques, ça peut aider la population du Kwilu à lutter et à préserver l'environnement.
Vous avez également fait allusion, ingénieur, sur l'incidence liée à la santé par la pratique du bois, par la la cuisson à l'aide des bois de chauffe, la fumée qui dégage des bois de chauffe, qui a des conséquences sur la santé humaine.
C'est-à-dire que le déboisement a beaucoup d'impact et beaucoup de conséquences, surtout sur la santé. Nos mamans sont en train d'inhaler de la fumée au jour le jour. C'est comme ça que dans nos villages, les gens sont en train de mourir parfois de tuberculose. On va accuser des sorciers pour rien, alors que c'est la fumée qui avait été inhalée à cause de quoi ? À cause de la forêt qui a été déboisée.
Et quel appel que vous avez annoncé à la population du Kwilu concernant la préservation de l'environnement par rapport à cette première édition du forum sur le climat organisé dans la ville de Kikwit?
Je pense que ce premier forum du climat dans la ville de Kikwit serait salutaire pour la province du Kwilu. S'ils recourent, ils font la transition vers les foyers améliorés, les forêts seraient préservées et ils seront en bonne santé, l'environnement sera fiable et en définitive, ils vont laisser un héritage louable aux générations futures.
Pour aider la population du Kwilu à s'adapter au phénomène du changement climatique, l'État congolais et les acteurs de la société civile ont un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation des communautés locales sur les notions liées à l'importance de la protection de l'environnement, conclut Théotine Ubolekosi, nous rappelons qu'il est spécialiste en développement durable.
Les enjeux politiques peuvent jouer un grand rôle. Pourquoi ? Parce que chez nous, en tant que spécialistes en développement durable, l'État reste l'acteur incontournable, le premier acteur dans toutes les activités. Parce que la loi de Baragic a le dit très bien, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État.
C'est l'État qui doit donner l'élan.
C'est l'État qui doit donner l'élan. C'est l'État qui doit donner les orientations. C'est l'État qui doit faire un programme. C'est l'État qui doit trouver des mécanismes de régulation pour un certain moment, avec des lois, avec des principes, avec quoi il peut dire qu'on stoppe parce qu'il y a un programme. Il peut dire qu'on ne peut pas faire ça parce qu'il est le garant. Alors quand l'État lui-même, à un certain moment, ne joue
semble
pas...
Il être défaillant.
Il est quelque part défaillant, il ne joue pas grandement son rôle. Eh bien, soyez-en sûrs, messieurs les journalistes, les choses ne peuvent pas marcher. Pourquoi ? Parce que dans une société, il n'y a pas de loi. Dans une société, il n'y a pas de principe. Le recteur de l'université de Kikwit a beaucoup insisté sur ce que nos ancêtres faisaient. Mais nos ancêtres se basaient sur quoi ? Nos ancêtres se basaient sur des normes. Celui qui va entrer dans la forêt ici, il sera sanctionné. C'est le clan qui va commencer, le taux de mortalité qui va augmenter, histoire comme ils avaient des principes.
De fermeture de pêche, de fermeture de la chasse,
de la forêt et tout ça.
Et des forêts interdites d'accès et tout ça.
Des forêts interdites et voilà tout ça, il y avait une sorte de régulation qu'aujourd'hui l'État devrait regarder par rapport à ce que nos ancêtres faisaient, ils récupèrent et on établit des lois, des normes par rapport à la société pour nous permettre d'avancer. Mais aussi, il y a un autre acteur qui n'est pas de moindre importance, c'est l'intellectuel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore assez de recherches dans le domaine de gestion forestière pour qu'on amène vers ceux qui gouvernent, vers ceux qui prennent des décisions, afin, on a posé des questions ici, des réserves, des protections, des inventaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut inventorier combien de ressources qui sont en extinction, combien de ressources qui sont menacées, combien de ressources qui sont en danger, combien de ressources qui sont en voie de disparaître?
Il faut reboiser. Quelles espèces d'arbres, quelles quantités?
Très bien. Quelles sont les espèces face à cette dégradation massive? Quelles espèces qu'on peut mettre sur le marché pour que cela puisse vite couvrir les espaces pour qu'on puisse trouver Kwilu vert, Congo vert et nos villages verts, tout ça. Mais il faut à un certain moment qu'il y ait vraiment des recherches. Mais aussi, je peux terminer avec les deux autres acteurs. Il y a la société civile. La société civile, à un certain moment, n'est pas là pour la conquête du pouvoir. La société civile est là pour faire pression à ceux qui gouvernent afin que les histoires marchent. Mais quand on a une société civile qui est à la conquête du pouvoir, une société civile qui cherche de gagne-pain, à un certain moment, elle dévie sa mission première, celle de pousser, celle de faire pression à ceux qui gouvernent ou au gouvernement afin d'améliorer. Mais il y a le tout dernier acteur. Bon, il est dernier, mais il est le premier parce que c'est la population elle-même, l'habitat, en milieu rural, l'habitat, en milieu périurbain, ainsi de suite. Cette population qui, à un certain moment, dans la province du Kwilu, et à 80% qui a comme activité principale l'agriculture, qui a comme activité principale le travail de la terre, à 80%. Mais qui, malheureusement, elle se retrouve aujourd'hui dérobée par ses ressources à cause des nantis qui ne représentent que les 20% et qui ont confisqué, qui ont pris ces terres en otage. Et quand ils prennent les terres en otage, ceux-là maintenant deviennent des gens délaissés, abandonnés. Et pourtant, les 80% de ceux qui devraient nourrir les Kwilu, ce sont ceux-là qui font le travail de la terre. Mais comment on peut être paysan sans terre? Comment on peut être agriculteur mais sans terre? Donc le problème encore vient se poser, celui des conflits. Pourquoi? Parce que celui qui aujourd'hui avait sa terre, avait ses forêts, se retrouve et on lui a confisqué, cela est pris en otage par d'autres. À un certain moment, comment il deviendra gestionnaire de cette forêt? Parce qu'il va se dire, je suis étranger chez moi. Donc il va développer l'attitude de détruire davantage que de voir les soucis d'améliorer.
C'est par les plaidoyers de M. Théotine Oubo-Lekossi, spécialiste en développement durable, que nous clôturons les magazines Écho du développement consacré à la deuxième journée des travaux du forum sur les changements climatiques dans les Kwilu que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Matoua qui a coordonné et supervisé ces magazines, Mimi Kindou était à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À bientôt.